On va revenir maintenant à la canicule, avec les conséquences sur l'école. Je propose d'écouter le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Édouard Geffray. Il tire presque une fierté d'avoir un bureau non climatisé. Écoutez.
Non, je n'ai pas de climatisation au bureau, ni climatiseur, ni ventilateur. Je considère que j'en aurai un le jour où tout le monde en aura un. Et tant que ce ne sera pas le cas, je resterai avec mes 35 à 38 degrés quotidiens.
Le courage du ministre de l'Éducation, qui supporte ce que supportent en ce moment même le personnel et les enfants dans les établissements qui y sont restés ouverts. Sophie Vanity-Tay, en même temps, ça ne calme pas la colère des syndicalistes de l'enseignement. Vous êtes secrétaire général du syndicat enseignant SNES-FSU. Vous avez décidé de lancer un appel à la grève.
Oui, un appel à la mobilisation de manière plus générale qui va pouvoir prendre différentes formes. À des endroits, il y aura peut-être des grèves. À d'autres endroits, nos collègues vont alerter sur les dangers auxquels ils font face. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien voir que les professeurs, les adultes des établissements et les élèves sont dans des situations dangereuses. Depuis lundi, on nous remonte un certain nombre de témoignages de collègues qui nous parlent de malaise d'élèves, de malaise de professeurs, que ce soit pendant les cours, comme par exemple au collège, que ce soit pendant des épreuves de baccalauréat. Enfin, il faut quand même mesurer ce qui se passe. Des élèves dans ce pays sont en train de passer leurs épreuves de baccalauréat.
Demain, il y a le brevet.
Demain, il y a le brevet et il y a des élèves qui font des malaises. On a des collègues qui ont fini aux urgences à cause de cette situation. On a
dans quelle est la température maximale que vous ayez pu avoir dans des classes ou...
On a été jusqu'à 38 degrés. On a vu aussi, par exemple, dans l'académie d'Orléans-Tours, les passages à l'infirmerie. C'est extrêmement intéressant de voir combien il y a de passages à l'infirmerie. Dans un collège, vous avez eu 40 passages d'élèves dans la journée et uniquement pour des coups de chaud. Donc aujourd'hui, les élèves et les professeurs sont en danger.
Et ça fait une semaine.
Que le ministre nous dit, ça a été anticipé et la santé des personnels est notre priorité.
Mais justement, quelles sont les consignes ? Parce qu'il y a des établissements qui ont fermé, d'autres accueillent les enfants en donnant quand même comme consigne aux parents, si vous pouvez garder vos enfants, faites-le. Le problème, c'est que finalement, chez soi, il fait aussi chaud qu'à l'école. En fait, il n'y a pas de consigne générale.
La consigne, c'est qu'il n'y a pas de consigne.
Voilà.
C'est ça, de la part du ministère de l'Éducation nationale, c'est du cas par cas. Il renvoie au local, chacun se débrouille, chacun décide. C'est d'ailleurs la grande débrouille aussi bien pour essayer de voir comment faire descendre la température. Il y en a qui amènent leur ventilateur, il y en a qui décident de fermer, il y en a qui décident de suspendre les cours. On nage dans la plus grande anticipation. Et nous, ce qu'on dit en appelant à la mobilisation, c'est que ce n'est pas possible. On ne peut pas traiter l'école comme ça. On ne peut pas traiter les professeurs et les élèves comme ça. Et pendant ce temps-là, on a un ministre qui nous dit que ça a été anticipé, que
Mais vous avez vu, il vit la même chose que vous. Il n'y a pas de climatiseur dans son bureau.
Oui, alors écoutez, après, s'il veut être solidaire avec moi, il peut partager son salaire. Hein, quand tu es solidaire jusqu'au bout.
Pour une question, pour tordre le cou à des idées reçues aussi. Si des parents se cotisent et achètent un ventilateur ou une climatisation mobile et qu'ils disent à l'école, on vous l'apporte, vous l'acceptez ou pas par rapport au règlement, parce qu'on a lu beaucoup de choses là-dessus.
Moi, en tant qu'enseignante, je l'accepte bien volontiers. J'ai fait cours il y a quelques semaines, parce que j'enseigne en lycée, j'ai fait cours il y a quelques semaines dans des salles où il faisait 32 à 33 degrés. Donc, je l'accepte bien volontiers. Après, c'est vrai que parfois, dans les écoles primaires, il peut y avoir des règlements divers. Il peut
y avoir des problèmes de responsabilité en cas d'incendie, oui. Par exemple. C'est-à-dire que si le matériel n'est pas aux normes, si il se déclare un incendie, par exemple, là, le maire est responsable, il peut répondre devant un tribunal. Donc ça c'est vraiment assez compliqué.
Mais on est capable, Véronique, de faire un point précisément sur le nombre d'écoles qui ont fermé, celles qui sont restées ouvertes, celles qui parce que il y a des bâtiments plus ou moins anciens, plus ou moins qui sont plus ou moins des bouilloires thermiques.
On a vu le nombre d'écoles fermées et d'établissements avec des horaires aménagés, c'est-à-dire uniquement l'école le matin et un accueil l'après-midi qui a quasiment doublé. On était à 6000 établissements ou fermés ou à horaire aménagé lundi, on est à 13 500 aujourd'hui et probablement qu'avec cet appel à la grève, on aura sans doute un peu plus d'écoles et d'établissements fermés demain.
Le brevet, il se tient aux horaires normaux ou c'est adapté ?
Alors, les horaires n'ont pas été bougés. Il y avait une partie des syndicats qui voulaient avancer l'horaire à 8 heures au lieu de 9 heures, mais on avait des problèmes de transport scolaire. Il n'y avait que des mauvaises solutions, je dirais. Vous aviez une partie des syndicats qui voulaient reporter l'épreuve, mais là, ça posait des problèmes de correction parce que vous avez les correcteurs qui vont commencer à corriger dans une semaine, c'est-à-dire à partir de jeudi et vendredi. Et ensuite, c'est les vacances, vous n'avez plus de correcteurs.
Demain, c'est le français.
Donc, la solution qui a été choisie, c'est de dire on va faire des pauses plus longues. Normalement, on avait un quart d'heure de pause uniquement entre deux épreuves. Là, on va diviser en trois parties. 1h10 de grammaire, compréhension de texte, 20 minutes de dictée. Là, vous avez une première pause. Et puis, ensuite, une rédaction d'une heure et demie. Ce qu'il faut dire, c'est que l'idée, c'est vraiment qu'il va être possible pour tous les élèves de sortir à n'importe quel moment, y compris en allant contre des règles qui permettraient d'éviter la triche. Par exemple, on ne pouvait pas normalement sortir avant une heure après le début de l'épreuve. Et là, tout est mis à plat. D'accord. On va permettre aux élèves d'aller se rafraîchir, aller aux toilettes et pouvoir poursuivre l'épreuve. Dans l'idée, ça doit se terminer à 12h30, 13h, 13h30 peut-être pour les élèves qui sont porteurs de handicap. Ça, c'est un vrai problème parce qu'ils ont un
tiers temps. On parlera de la situation des personnes handicapées tout à l'heure et qui sont dans les maisons d'aide spécialisées, parce que c'est un vrai sujet aussi. Vous vouliez réagir à cette...
Oui, moi j'étais
sur l'école, madame la députée.
Ce matin, dans une école de ma circonscription, au 315 rue de Charenton, avec la maire du 12e arrondissement, et effectivement, nous avons constaté que dans les classes, il fait plus de 32 degrés. Moi, d'abord, ce que je constate, c'est effectivement une mobilisation très forte de la communauté éducative et des parents d'élèves. Et c'est vrai que c'est un peu le règne de la débrouille en ce moment, mais en tout cas, ça fonctionne en partie, au moins pour des solutions type occulter les vitres avec des couvertures de survie. Il y a même des coopératives qui se sont cotisées pour acheter des...
Il n'y a pas de store basculant, il n'y a pas de volet, il n'y a rien.
Alors, il y a un peu de store, mais pas tous les étages. Voilà, donc c'est exactement ça. Mais c'est bien que vous attiriez l'attention là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de climatisation, mais en vérité, il y a beaucoup d'autres solutions qu'il faut aussi mettre en œuvre.
Mais installer d'abord, des stores, c'est
d'abord
pas
les
si compliqué.
Stores et d'abord les volets, effectivement, mais aussi la végétalisation des toits, ce qu'on appelle l'effet albédo, le roof cooling, c'est-à-dire peindre les toits en blanc quand c'est possible.
Et qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Pardon, mais excusez-moi, mais à chaque pellicule, on dit la même chose.
C'est pas
on
un parle des volets. Que vous devez dire ça, parce que nous, oui, ça mais fait longtemps que.
Encore une fois, Paris dirigé par la gauche, les écologistes.
Pas par les écologistes en l'occurrence, mais donc si on a pu constater, comme je vous dis, au 315 rue de Charenton, qu'il y avait vraiment une mobilisation de la communauté éducative. Et je voulais attirer simplement l'attention sur une chose, c'est que là, on pense que c'est la fin de l'année scolaire et que les problèmes vont être terminés, mais il va y avoir les centres de loisirs derrière dans une partie de ces écoles. Donc il faut vraiment qu'on continue à être mobilisé et à mettre en œuvre des solutions, y compris la climatisation, parce que il va y avoir des climatiseurs qui arrivent dans les écoles. Compris parisienne.
On va retrouver les équipes de BFM TV. On va les retrouver dans le Maine-et-Loire, parce qu'il y a, avec cette canicule, il y a de la sécheresse, il y a les risques d'incendie. Et justement, il y a un départ de feu, là, en ce moment, dans le Maine-et-Loire. Et nous sommes avec Justine Picaté pour BFM TV.
Un départ de feu, oui, mais il dure depuis 2 jours déjà. Il était à peu près éteint hier, et bien ça a repris hier après-midi. Aujourd'hui, vous pouvez voir, il y a encore de la fumée, l'air est très chaud, la terre est très très chaude, on sent la chaleur qui monte dans l'air, c'est très très sec par ici, l'humidité est très basse, et bien ça accentue ces départs de feu, ça peut partir en quelques secondes. On nous a dit un petit coup d'allumette. Enfin, on dirait que c'est une petite boîte d'allumettes qui s'allume. Ça repart très 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 vite. C'est un très grand défi pour les pompiers qui sont mobilisés ici. Ils sont une centaine de personnes mobilisées ici dans cette forêt qui brûle depuis. Je vous ai dit depuis 2 jours. Il y a même des agriculteurs qui essayent d'arroser cette avec leur tracteur cette terre parce que c'est tellement dur à éteindre parce que la terre est tellement chaude que l'eau il s'évaporise. C'est un très très grand défi et ils se battent depuis même plus de 2 jours.
Justine Picaté, donc avec Léane de la Brière à Saint-Marcaire-du-Bois, dans le Maine-et-Loire, justement, les agriculteurs aussi, ils attendent avec impatience l'arrivée de la pluie. Cette sécheresse pose un problème pour les moissons. On va retrouver Isaure de la Gorce dans un instant à Agen avec les agriculteurs. La pluie, on peut l'espérer ou pas?
Alors, on aura quelques orages localisés globalement entre les Pyrénées et les Ardennes, mais soyons francs et clairs, ces orages ne suffiront pas à permettre à la végétation de repartir, si je puis dire, puisqu'elle est vraiment sèche depuis la première canicule de mai. Soyons clairs sur un deuxième point, nous allons sortir d'une première crise qui est cette canicule, mais la prochaine, c'est celle-là, ce sont les incendies. Nous sommes avec la moitié du pays, dont l'Île-de-France, qui est concernée par un risque de feu de forêt sévères, voire extrêmes par endroits. La semaine prochaine, le vent, la tramontane et le mistral vont se lever. La canicule, les températures fortes seront toujours là. Sincèrement, la semaine prochaine, les pompiers seront sans doute mis à rude épreuve dans de très nombreux départements parce que le risque d'incendie sera malheureusement maximal.
Et on se souvient des alertes qu'ils avaient données notamment sur le matériel, le renouvellement du matériel et le manque de bras aussi pour les pompiers.
Mais des orages qui pourraient être quand même violents sur la façade ouest, hein.
Alors ça, effectivement, entre ces deux crises, canicule et incendie, on a aussi effectivement les orages qui nous concernent dès ce soir, puisque 12 départements, effectivement, sont en vigilance orange. Globalement, faisons simple, le sud-ouest et une partie notamment donc de la Vendée, de la Bretagne. Pourquoi est-ce qu'ils seront violents? Parce que effectivement, nous avons un très fort contraste thermique entre cet air froid qui arrive de l'océan et cet air chaud, évidemment, dont on parle maintenant depuis une semaine. Ce contraste thermique va générer des orages très localement violents, avec malheureusement de puissantes rafales de vent jusqu'à 110 km par heure par endroit, des phénomènes tourbillonnaires possibles, donc des supercellules avec potentiellement donc des tornades. Il va falloir les surveiller, ce risque orageux va nous concerner au moins jusqu'à dimanche.
Alors il y a le risque orageux, on a parlé des écoles, on a parlé des hôpitaux. Aujourd'hui, Enedis a déclenché sa force d'intervention rapide face à un risque de coupure d'électricité élevé. On a le problème, les soucis aussi dans les transports, puisqu'on déconseille aux gens de prendre les transports, tout de même ceux qui sont en situation de faiblesse. Enfin, on a l'impression que rien ne va, quand même. Transports, écoles, hôpitaux, électricité.
Oui, j'ajouterais même sur la question agricole, la question des élevages, parce qu'il y a une mortalité d'animaux de plus en plus importante là en ce moment dans les élevages français. Donc il va falloir, pour le coup, là, être aux côtés des agriculteurs
sur,
et des éleveurs.
Sur les transports en commun, dans les transports en commun, il y a 5 lignes de métro qui sont climatisées, je crois. Après, certaines sont ventilées, sont aérées.
Il y a clairement un retard d'adaptation. Hein,
sur le matériel, il y a 30-31 degrés dès 7h le matin dans les tunnels, les tunnels du métro ou dans les rames.
Un retard d'adaptation important. Pour ce qui est des réseaux, il y a quand même des plans de mise à niveau des réseaux qui prennent en compte les canicules à venir qui sont en marche depuis quelques années. Donc, on ne peut pas dire que Enedis, par exemple, n'ait pas anticipé le sujet. Mais sur les transports urbains, oui, on est clairement très en retard sur la climatisation. Or, elle est indispensable pour que les salariés puissent, par exemple, aller au travail, tout simplement.
On va retrouver Isor de la Gorce, elle est dans le Gers, avec les agriculteurs qui attendent la pluie avec espoir et inquiétude, Isor.
C'est ça, après les très fortes chaleurs, la pluie, des fortes chaleurs qui ont eu des conséquences sur les récoltes. Ici, on moissonne 2 semaines à l'avance le blé. On va en discuter avec Dorian Lamotte. Quel a été l'impact sur vos cultures de ces fortes chaleurs?
Ah ben, l'impact, c'est que on récolte tout en avance. Tout a pas eu le temps d'arriver à maturité à temps. Donc, baisse de rendement sur le blé. Tout ce qui est culture de printemps, pareil. Le tournesol, il a pas eu le temps de se faire comme il faut. Il y a des endroits où il sort déjà la fleur. Le maïs.
Vous avez une idée des pertes?
Pour l'instant, on table à 30%.
Et alors là, ce qui va arriver, c'est des orages. On est en risque orange. Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous?
Ça peut être à double tranchant. On a la pluie, elle peut être fine ou forte. Si c'est une fine pluie où on en a de la quantité. On peut être espéré sauver les meubles, mais sinon l'eau va courir, ça va être des dégâts en plus. Et alors s'il y a la grêle, je vous raconte pas.
Et le scénario catastrophe, c'est la grêle pour vous, c'est ça?
Ouais. Là c'est la perte sèche, surtout le travail de l'année.
Bah merci beaucoup en tout cas, on vous souhaite bon courage. Effectivement, dans le Gers, risque orange d'orage et on attend de très fortes pluies à partir de 18h.
Isor de la Gorce avec Valentine Rib, donc dans le Gers pour BFM TV.
Notre docteur Gatch nous a rejoint. Bonsoir. On a commencé cette édition par la préoccupation de la ministre de la Santé pour ce week-end. Les urgences vont connaître une forte fréquentation. On voit les patients arriver. Quels sont les conseils à donner à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent?
Les conseils à donner, alors évidemment, il y en a qui paraissent évidents, mais c'est important de les rappeler. Hydratez-vous, vous allez me dire, c'est ça, on a compris. Mais hydratez-vous avant même d'avoir soif, je le redis souvent, parce qu'il faut bien avoir conscience que la soif, lorsque vous avez soif, vous avez perdu entre 0,5 et 1% de poids corporel, ce qui veut dire que quand vous pesez 70 kilos, ça fait 700 millilitres. Donc vraiment, il faut boire. Et je tiens juste à rappeler que on a à peu près tous quasiment, pas du mépris, mais vous savez, cette condescendance des gens qui font des insolations, des jeunes de moins de 60 ans, en gros, ça peut être des très jeunes, ça peut être des moins jeunes, en disant... De toute façon, en vrai, il aurait pu le voir venir. Non, je vous promets que tout le monde autour de cette table est concerné. C'est-à-dire que les histoires classiques que je peux avoir aux urgences, c'est je courais, je travaillais, j'étais un peu fatigué. Juste des symptômes qui, clairement, correspondent plutôt aux symptômes de la vie de tous les jours. Et la personne, bah, s'en rend pas compte. Et derrière, elle fait l'insolation. Pour certains même, ça va jusqu'au coup de chaleur. C'est important d'en avoir conscience que, je sais pas si vous avez quand même déjà vu, vous voyez, ce côté-là de dire, non, mais moi, je me connais, je peux faire mon petit jogging, j'en fais déjà tout le temps. Je veux dire, je vais le voir quand je vais pas aller bien. Non, si vous prenez votre montre connectée, si vous en avez une, vous verrez votre cœur qui va s'emballer, alors que vous avez les mêmes performances que d'habitude.
Justement, vous parlez du cœur qui s'emballe. Les arrêts cardiaques sont en forte augmentation, notamment à Paris.
Oui, et c'est important d'ailleurs d'expliquer aux gens pourquoi. Ça, c'est à chaque
25
fois.
25 la nuit dernière.
Hein. Ben, en fait, le problème, c'est que quand il fait chaud, il va falloir refroidir le sang qui est chaud. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, les vaisseaux vont se dilater au niveau de la périphérie. Ben, donc, il y a moins de sang disponible. Le cœur, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il accélère. Donc, vu qu'il accélère et qu'il doit battre plus fort, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'énergie, ça fait que c'est plus à risque d'infarctus. Puis aussi, la sueur, vous allez perdre dedans des électrolytes, des ions. Et ces ions-là, ben, parfois, ils peuvent être responsables justement de la conduction cardiaque. Ça peut poser problème. Mais la chose qui est assez inquiétante, c'est important de le rappeler, c'est que, en fait, dès qu'on a eu le début de la vague de chaleur, on a dit, vous allez voir, on va avoir les conséquences dans 6-7 jours, puisque ça met du temps. Si vous prenez un glaçon, vous le mettez dans le four, il met un peu de temps avant de fondre. Hein. Je veux dire, ça va dépendre de l'intensité de la vague et ça va dépendre de la durée. Plus, on a plus ou moins une résilience qui est différente en fonction des profils, mais ces températures-là sont mauvaises pour notre
corps. Mais est-ce que l'hôpital est prêt? Est-ce qu'on sera bien soigné ce week-end si on fait un malaise cardiaque?
Alors non, et juste pour reprendre...
Non, bah au moins c'est...
Non mais c'est clair, je vais même expliquer pourquoi. Les urgences de base sont sous tension. À partir du moment où on pose la question de déprogrammer, pour redire, hein, quand on déprogramme de la chirurgie, c'est un aveu d'échec. Déprogrammer des chirurgies, parce que qu'est-ce que ça veut dire déprogrammer de la chirurgie qui est programmée?
C'est prévu par le plan Orsan niveau 3, hein, déprogramme des opérations.
Sauf que là, on est dans une vague de chaleur. Tous les ans, on en a. Je veux dire que quand on sort ça, on se dit mais fallait le préparer avant. C'est pas normal que vous ayez. Et moi, je vous le dis en tant que, alors je suis urgentiste, mais j'ai aussi été médecin de l'ARS où je vous dis on avait des tableaux d'activité où vous avez du rouge partout. C'est-à-dire que vraiment pour les administratifs, c'est vous savez tel hôpital, c'est toujours compliqué là-bas et ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on le sait. Vous voyez, regardez, c'est impressionnant cette vague de chaleur, mais si on l'avait eu en juillet, ça aurait été pareil. C'est-à-dire que les urgences sont déjà sous tension avec un régime de base. Avec un régime de base, vous allez quand même attendre 10, 12, 15 heures avant d'être hospitalisé.
Mais là, chez vous, dans votre service d'urgence, par exemple, où vous travaillez, vous avez des chambres ou des pièces qui sont à combien de température?
Alors là, pour le coup, nous, la seule fois où on avait mesuré, on était à plus de 35 degrés. On n'a que des ventilateurs. Vous imaginez bien qu'on n'a pas de ventilateur pour tous les patients. Et vous imaginez aussi que, non pas que... Enfin, je vous adore, hein, tous autour de cette table, c'est pas la question. Mais c'est pas comparable de mettre quelqu'un qui est malade, quelle que soit sa condition, c'est-à-dire que qui vienne pour une pathologie chirurgicale ou une pathologie médicale, et juste de lui mettre un ventilateur où vous soufflez de l'air chaud, c'est délétère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, c'est délétère. La question, c'est à quel point ça le sera.
Et Cédric, qui a sa mère, qui a 83 ans, hospitalisé, racontait hier chez Marc Fauvel sur BFM TV qu'il a voulu acheter un climatiseur pour soulager sa mère. On lui a refusé le climatiseur à l'hôpital sous prétexte que comme les autres n'en ont pas, ça crée peut-être un problème d'égalité de traitement. On en est là, c'est-à-dire que le directeur de l'hôpital, il peut pas se dire lui-même, allez hop, je débloque un petit budget, j'achète quelques climatiseurs, on vit quelque chose quand même d'assez exceptionnel, comme dans les écoles.
Vous avez tout dit, c'est un directeur. C'est-à-dire que moi je vous le dis, je pense que n'importe quel médecin hospitalier vous dira, c'est des administratifs. C'est-à-dire que les administratifs, ils ne mettent pas les mains dans le cambouis, ils ne voient pas des patients. Ils des tableaux, des tableurs avec des couleurs, avec de, il faut occuper tel poste.
Voilà, c'est du bon sens quand vous dites au directeur, j'ai 35 degrés dans mon service d'urgence, ça peut faire mourir des gens. Il doit quand même réagir.
Ah bah, il vous dit, on comprend. Non, mais d'ailleurs, je vous assure, regardez toutes les interventions d'administratifs ou de politiques. À chaque fois, c'est, on va réfléchir, on va mettre en place un comité d'administration pour trouver une solution urgente parce qu'on a bien compris la situation.
Oui, c'est un peu la même chose dans l'école.
Voilà, donc c'est toujours très long. Et en fait, après, c'est passé parce que je peux vous dire, des problèmes aux urgences, on en a plein. Et donc, on est habitué à ces comités-là et on n'a jamais de solution.
Par rapport à 2003, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise impression, qu'on a quand même...
Il n'était pas né, le docteur Gage. Hein.
Non, mais j'ai justement une anecdote.
Oui, mais les anciens lui racontent que finalement, par rapport aux personnes âgées, on a quand même progressé. C'est-à-dire qu'on a...
climatiser les EHPAD, on fait plus attention à nos aînés. Il y a peut-être d'ailleurs moins de passages aux urgences en ce moment qu'en 2003, il y a 23 ans.
Est-ce que je peux vous raconter une histoire, pour le coup, qui sera peut-être un peu longue, mais pour vous illustrer, hein, on est en 2010, je suis en première année de médecine, on nous parle de la canicule de 2003. Pour l'illustrer, on nous dit, voyez, il y a eu un drame, et après, on a changé la loi. Chose qu'on a changé, c'était le fait qu'il y ait une pièce climatisée dans les EHPAD. Mmh. Ce qui était très bien. Vous imaginez en 2010, hein, ces trucs qu'on nous apprend en première année de médecine à chaque fois pour nous montrer les conséquences d'un plan, etc. Depuis 2003, c'est très bien d'avoir rendu obligatoire le fait d'une pièce climatisée. Sauf que déjà en 2010, on disait c'était une procédure d'urgence. On sait déjà que il y a pas de clim dans tous les EHPAD, c'est-à-dire dans toutes les pièces de l'EHPAD, c'est-à-dire que vous avez des patients qui peuvent pas sortir de leur chambre, ils restent et ils cuisent dans leur chambre. Ouais. Et puis les hôpitaux, faut savoir que depuis 2003, on n'a jamais rendu obligatoire le fait qu'il y ait la clim partout. Et quand on vous dit oui, mais il y a des histoires de collectivité de droit, c'est assez drôle parce qu'après 2003, on a pu le faire pour les EHPAD. Je tiens juste à rappeler que la climatisation est obligatoire pour le bloc opératoire, donc c'est pas impossible de changer la loi et de rendre ça obligatoire pour les urgences. Vous savez, la situation, elle est dramatique dans les écoles, vraiment. Et ça, il y a pas de débat là-dessus. Mais par contre, on est obligé de garder les urgences ouvertes. C'est-à-dire que c'est comme si vous montiez dans un avion, vous savez qu'il y a une aile qui est cassée. Vous iriez dans un avion comme ça ? Non, mais moi, je suis quand même obligé d'aller aux urgences.
Merci à tous.